chronique confite sur panique.
En direct de la panique.
Les mutants sont contents.
Et oui, toujours dans Chronique Mutante, en direct de Nas Manic sur Radio Panique. Quel bourrine.
Oh, coucou. Alors, on va parler Chemsex et Crystal Meth. Alors, juste pour situer un peu le projet, l'émission est en collaboration avec Ex Aequo parce que j'y travaille. Et donc, on a l'habitude de recevoir des personnes qui pratiquent le chemsex. Je resitue, le chemsex, c'est la pratique de la sexualité sous l'influence de drogue. Et donc, moi, j'ai l'habitude, je suis chargé des projets de prévention au niveau de ces pratiques-là au sein de l'association. Et je discute avec pas mal d'usagers qui passent dans l'asso. Et un jour, en fait, j'ai discuté avec un mec qui me disait que lui, en fait, avant d'atterrir dans l'assaut, en fait, il avait recherché sur Internet et il avait recherché surtout des témoignages de personnes qui essayaient d'arrêter, parce que des personnes qui consomment, en fait, c'est facile d'en trouver, d'aller sur les applis de rencontre, mais trouver des personnes qui veulent arrêter et pouvoir en discuter, pouvoir lire leurs témoignages ou les écouter, ben ça, il l'a pas trouvé. Et ça existe en anglais. Il y a au Canada, ça existe aussi, mais bon, avec l'accent, il faut pouvoir tout comprendre. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, organiser une émission de radio sur ce sujet avec des usagers qui voudraient témoigner de leur arrêt de la Crystal Meth. Et donc, voilà. Bah, pour ça, j'ai invité Xavier et Mathieu à venir parler un peu de leur expérience. Donc, je sais pas, est-ce que vous voulez. Vous êtes présenté tout à l'heure, est-ce que vous voulez introduire. J'ai mon casque qui bug un peu, c'est un peu dérangeant. Mais est-ce que vous voulez un peu parler de comment vous.
Mais peut-être on peut commencer par resituer qu'est-ce que c'est la Crystal Meth.
Ouais. Vous voulez en parler?
Ouais, moi je veux bien. La Crystal Meth, bah, c'est la version en cristal de la méthamphétamine, qui est une drogue, enfin c'est une amphétamine pure quasiment. C'est un produit qui a été, je dirais, inventé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelait la pervitine à l'époque. Et c'était un produit qui se vendait même dans les magasins, quoi. C'était dans les pharmacies. Et on donnait ça aux soldats pour qu'ils restent éveillés tout le temps. Parce que c'est un produit qui rend très éveillé, très très éveillé pendant des jours. Moi, j'ai pas, quand je consommais, j'étais très. Parfois, j'ai dormi, mais j'ai pas dormi pendant une semaine, quoi. Et c'est aussi un produit qui donne une espèce de confiance, peut-être un peu surexagérée, quoi. Et ouais, ouais. Voilà, pour parler un petit peu du produit. Maintenant, c'est un produit qui est aussi très cher en Belgique, faut savoir. Voilà.
Ça coûte combien?
C'est à peu près, je dirais, enfin, maintenant peut-être ça a bougé, hein, maintenant, mais c'est, je dirais, 150 euros le gramme, quoi, pour un gramme, quoi. Et qu'un gramme, ça va, ça dépend la consommation, ça dépend si c'est en injection ou si c'est en fumée, si c'est fumé, quoi.
C'est énorme. Ouais,
ça peut aller très vite si c'est injecté, quoi, parce que là, on consomme d'un coup beaucoup plus, quoi. Ouais. Donc ça va très vite. Moi, je consommais, je peux dire, parfois par 500 euros par semaine, quoi, donc, ouais.
C'est un produit qui est facile à trouver. Comment vous avez commencé à consommer, par exemple?
Moi, j'ai commencé à New York City. C'était en 2003, par hasard, dans un sauna gay. Et un garçon m'a proposé de sniffer une ligne blanche. Je pensais que c'était de la cocaïne. Et donc, j'ai sniffé et ça a été rencontre du troisième type. C'est-à-dire que je suis arrivé le vendredi soir dans le sauna et j'en suis parti le lundi matin à 8h. Et je me demandais comment j'avais pu marcher, danser sur le plafond pendant trois nuits et deux jours. Enfin, pour repréciser ce qu'est la méthamphétamine, c'est que effectivement pour les hommes qui ont du sexe avec d'autres hommes, comme ça provoque une décharge de dopamine qui est en fait la molécule du plaisir. Ça multiplie par 1000, par exemple quand on fait l'amour, ça multiplie par 100 ou 1000 la sensation d'orgasme, de plaisir comparé à ce qu'on peut ressentir de manière naturelle quand on fait l'amour. C'est peut-être une des raisons pour laquelle c'est très en vogue dans le milieu gay. Mais ensuite, évidemment, j'ai commencé à beaucoup consommer ce produit quand il a été disponible à Bruxelles, c'est-à-dire dans les années 2010-2011. Et pour répondre à ta question, Samy, c'est très facile pour en trouver. Il suffit de se mettre sur une application gays, je vais pas les nommer, mais enfin, on les connaît tous. Et en une heure ou deux, on va rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui va donner un numéro de téléphone, et voilà. Donc c'est, le problème n'est pas de trouver des vendeurs. Le problème, c'est ensuite comment on gère ce produit quand il prend trop de place dans la vie.
Ok. Et vous, comment ça a débuté, votre consommation? Enfin, est-ce que vous l'avez toujours géré? Est-ce que c'était très rapide? Vous êtes laissé dépasser rapidement?
Non, enfin, au départ, je pense que c'était à 7 ans, j'ai commencé simplement à prendre de la cocaïne pour faire du chemsex. Et puis, je me souviens toujours que la première fois que j'ai pris ça, je me suis dit, ok, ça va être juste de temps en temps, quoi. Et puis, bah, c'était effectivement de temps en temps, mais après, c'est devenu de plus en plus souvent. Et il n'y avait plus de sexe non plus sans drogue. Ça, c'est clair. Ça devenait juste, oui, enfin, le sexe, c'était avec la drogue, quoi. Et je crois que maintenant même que j'ai arrêté, en fait, j'ai plus de libido, quoi. J'ai plus envie de sexe, quoi. Plus du tout pour l'instant. C'est assez bizarre. Donc, j'ai pas encore récupéré ma sexualité normale. Mais à l'époque, c'était vraiment comme ça, quoi. Donc, j'ai commencé par la cocaïne, et après, au fur et à mesure, bah, j'ai essayé d'autres choses, quoi. Ecstasy, j'ai essayé la kétamine, enfin, tout, hein. Et puis, bah, ça arrivait assez facilement parce que c'est vrai que c'est, au départ, quand c'est fumé, ça paraît anodin, en fait. C'est fumé dans une pipe, en verre. Et ça paraît vraiment anodin. On a l'impression qu'on va fumer un pétard. Mais c'est pas ça. C'est vraiment plus que ça. C'est peut-être, c'est un des trucs les plus durs, quoi. Donc, mais ouais, au départ, ça paraît. Et surtout, la première fois qu'on fume, on se dit toujours, j'ai vu les personnes qui ont fumé pour la première fois. Et moi, c'était pareil. Mais ça me fait rien du tout. Mais non, c'est très subtil, en fait. C'est finalement l'injection, le slam qui décuple vraiment tout à fait la molécule, quoi. Donc ça, c'est complètement, ouais, c'est complètement autre chose. Mais bon. Bon, c'est venu comme ça. Je pense qu'au départ, quand je consommais un petit peu comme ça, je fumais. Et puis quand je suis venu au slam, c'est là que c'est venu où j'ai commencé à consommer plus régulièrement. Et le pire, pour moi, ça a été un moment où j'avais beaucoup trop de travail. J'ai commencé à devoir fumer pour tenir éveillé la nuit, pour travailler toute la nuit, quoi. Donc, ouais. Ça, c'est plus dur. Ouais.
Ok. Et toi, Mathieu?
Oui, c'est une expérience assez comparable à ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a une espèce de sentiment d'être presque fasciné par ce qui se passe. Donc il y a une dimension de plaisir qui est évidemment très très forte dans la consommation de la drogue. Et qui explique qu'ensuite ça devient extrêmement difficile d'arrêter, parce que on reste, c'est comme si on restait, le curseur restait placé sur les premières fois où ça a été très agréable, les premières fois où effectivement on se rend compte qu'on n'a pas dormi pendant 2 jours ou 3 jours, qu'on n'est pas allé travailler une journée. Il y a toujours un l'aspect de la descente qui est compliqué, mais on reste fasciné par le plaisir, la dimension de plaisir, la dimension en fait qui est vraiment ce que je disais, c'est une rencontre du troisième type, dans le sens où en matière sexuelle, en ce qui me concerne, ça m'a permis de réaliser des fantasmes que j'aurais peut-être jamais osé réaliser, de passer à l'acte. Donc il y a un côté effectivement fascinant, très agréable, de pouvoir passer à l'acte entre guillemets de manière naturelle avec quelqu'un qui accepte complètement qu'on se mette à vouloir faire des choses qu'on n'oserait jamais imaginer ou réaliser sans le produit. Mais ensuite, le plaisir diminue et l'accoutumance s'installe. Et en fait, moi, ça commençait à me poser des problèmes au travail, parce que mes consommations des week-ends, elles débordaient sur le lundi ou le mardi, où on me voyait pas. Et quand ça devient systématique, enfin, il m'a fallu du temps pour réaliser que c'était devenu un véritable problème. Et ça, c'est une dimension, je pense, qu'on ne veut pas voir, ou qu'on ne sait pas, ou qu'on ne trouve pas l'information quand on commence l'utilisation de ce produit. C'est le moment où on réalise qu'on a un véritable problème, parce que soit les amis ou la famille posent des questions et réalisent qu'on va pas bien, mais souvent on est dans un déni. Enfin, moi, ça a été le cas pendant des années. Hein.
Ok. Et, Et en fait, tu parlais du moment où tu t'es rendu compte en fait que c'était un problème. Est-ce que déjà au départ, en fait, vous vous étiez déjà fixé des limites en fait pour votre consommation et quelles limites vous étiez fixé?
Oui, alors effectivement, ma limite c'était une fois maximum une fois par mois. Enfin, quand j'ai compris que c'était effectivement, comme disait Xavier tout à l'heure, que le sexe sans ce produit n'avait plus aucun intérêt. Mais qu'en même temps je pouvais pas faire du sexe avec ce produit tous les soirs, sinon j'allais plus travailler. Donc c'était une fois par mois, puis assez vite, en l'espace de 2 ans, une fois par mois, c'était une fois par semaine qui était ma limite. Et puis finalement, au bout d'un moment, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que j'ai perdu le contrôle il y a 5-6 ans, vraiment complètement. Et quand vous perdez le contrôle, que vous consommez 2 fois, 3 fois par semaine, que les trous sur l'agenda du travail deviennent tellement importants que vous êtes convoqué, on commence à vous mettre en invalidité pour une année, et que vous perdez votre job, ce qui m'est arrivé, la question d'arrêter devient totalement différente.
Et toi, Xavier ?
Moi, là où ça a été la sonnette d'alarme pour moi, il y a eu souvent, en fait. Il y a eu très souvent. Le truc, c'est que j'ai eu des espèces de paranoïa terribles, 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 terribles. Mais vraiment, en fait, je sais bien ce qui se passait. Hein. En fait, ça amplifie tellement tout, ça amplifie même tellement tous les sens, absolument tous les sens. Mais c'est au niveau de la perception, il y a quelque chose qui change aussi, quoi. Et je pense que ça, pour moi, ça amplifie nos croyances. Et moi, mes croyances, c'est tout le monde m'en veut. Et donc, je voyais autour de moi, tout le monde m'en voulait. Et donc j'avais l'impression que tout le monde voulait me tuer. Et donc j'ai eu des tripes terribles, quoi, où j'ai disparu pendant 2 jours, quoi, où j'ai fini aux urgences plusieurs fois parce que j'avais peur, j'étais dans la rue et j'avais l'impression qu'on allait me tuer, quoi, simplement. Donc ça, c'était déjà la première sonnette d'alarme, mais ça m'a pas empêché de continuer à consommer, quoi. Ça, c'est clair. Ça, pas du tout. Et après, au boulot, je voyais, donc je suis acteur, donc parfois je jouais au théâtre un peu pété, quoi, complètement. Ouais. Mais le problème, c'est vrai qu'on me disait rien, quoi. Donc je me disais, ça se voit pas. Mais bon, ça se voyait, parce que j'étais évidemment en surénergie, tout ça. Mais ça a été la deuxième sonnette d'alarme. C'est qu'une copine m'a dit, dis Xavier, ça se voit et ça va pas, quoi. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée, qu'on m'ait dit ça. Et puis j'ai perdu beaucoup de choses, quoi, et ces espèces de peurs, ouais, ça a été très souvent, quoi, ça a été vraiment très souvent. C'est ma propre culpabilité, quoi, que je voyais, quoi, partout. Qu'est-ce que je peux dire?
Non, mais il devait y avoir une troisième personne avec nous aujourd'hui, et cette personne-là est malade, elle n'a pas pu venir, elle a écrit un témoignage, et je propose en fait de le lire après une musique.
Du coup, je propose de passer Crystal Castles avec le morceau Transgender, et c'est toujours la programmation de King Baxter.
Alors, je vais vous lire le témoignage de Raphaël, qui ne peut pas être là avec nous ce soir. Un fils modèle sur lequel se fondaient tous les espoirs de ma famille, de ma toute petite famille, pas de sœur, pas de frère, pas de tante, pas d'oncle, pas de cousin. Juste un père alcoolique, violent, et une mère...
Attends, t'entends plus, Samy. Il y a un souci.
Juste un père alcoolique violent et une mère illettrée mais aimante. Toujours premier de la classe. L'université, vite un diplôme, une licence, un bon travail. Très peu d'alcool, jamais de cuite, jamais de drogue, peu de sorties, peu d'amis. Une sexualité sage et toujours protégée. Un mois de vacances en Floride, il y a 15 années. Le deuxième jour, une promenade dans le quartier, une affiche dans une vitrine. Vitrine, test VIH gratuit, résultat en 5 minutes. Et si on se testait, c'est gratuit. Ok, on y va, on le fait. Mon compagnon rentre en premier, je stresse, et s'il était positif? Notre relation est ouverte, il m'a promis de toujours se protéger. Moi, aucun doute, impossible que je sois positif. Certainement, j'ai connu quelques escapades dans les parcs ou dans les toilettes de l'université, au maximum une fellation sans sperme en bouche. Son test est négatif. À mon tour, je vois un trait sur le bâtonnet. I'm sorry, you are positive. Et là, tout bascule. À mon retour en Belgique, la prise de sang, la première consultation au CETIM et la trithérapie immédiatement. Un sentiment terrible d'injustice. Je ne me questionne pas sur qui, quand, quoi, comment, mais pourquoi. Un soir, un mec me chauffe sur Guéroméo, il me plaît. Cherche un plan, pose Barmac. Je suis à Louvain, tu viens ? Et me voilà dans le train. Le train démarre. Dans 20 minutes, je serai à Louvain. Ok, parfait, je me mets en route, je t'attendrai à la gare, au fait. Est-ce que tu slams ? Slam ? C'est quoi ? Oh, je t'expliquerai. On arrive chez lui, et là, la proposition de ma première injection à la méphédrone. L'extase, le pied, le plaisir le plus intense de ma vie. Enfin, je lâche prise, je transgresse et je vis la sexualité qu'au fond de moi, j'ai toujours désirée. Et depuis 15 années de consommation. En général, un ou deux week-ends par mois maximum. Les deux premières années de la méphédrone, par la suite de la 3-MMC, la plupart du temps. Avec les années qui passent, les effets sont moindres. Je ne veux pas augmenter les doses, mais cela ne m'apporte plus de plaisir du début. Plus le plaisir du début. Je me rends compte que cela génère de plus en plus de stress durant mes plans sexe. C'est rare que je sois détendu. Je dois me l'avouer, le sexe est souvent un prétexte à la consommation. Cela ne m'apporte plus grand-chose, mais paradoxalement, je continue. Il y a 2 ans, j'essaie mon premier slam à la Tina. Tina, qui est la Crystal Meth, c'est un nom qui lui est donné. Et je retrouve l'extase du premier slam. C'est un miracle. Mon père se suicide, un détail du mois, un détail pour moi, du moins c'est ce que je crois. Et puis après plusieurs sessions, je sens que je ne suis plus tout à fait moi. Je deviens égoïste, je ne m'intéresse plus à l'autre. Plus que 2 choses pimentent qui priment dans mes plans. La Tina et mon plaisir. Je me fous complètement de l'autre. Je dépasse plusieurs fois les limites quand je me suis posé. Il m'arrive de m'injecter seul alors que je travaille le lendemain. Je mens beaucoup à moi-même, aux autres et surtout à mon copain. Je sens que je vais tout perdre, mon boulot, mes amis, mon compagnon et ma santé. C'est ma 3e hépatite. J'ai connu une semaine aux soins intensifs après plan ayant mal tourné, une hémorragie interne. Je vais alors faire ce qui a été la chose la plus difficile de ma vie, demander de l'aide. J'ai vécu tant de choses traumatisantes depuis ma jeunesse, tant d'épreuves, mais la chose qui m'a demandé le plus de courage dans ma vie, c'est d'appuyer sur la sonnette de chez Infodrug. Presque 3 ans de consultation et maintenant 4 mois où je suis abstinent. Je ne veux pas diaboliser les drogues, mais je peux juste vous promettre que je me trouvais fort. Je me répétais, jamais je ne perdrai le contrôle. Jamais je ne dépasserai mes limites. C'est juste récréatif. Cela a été plus ou moins le cas, mais dès que je suis passé à la Tina, j'ai vite perdu le contrôle. Rien n'est plus pareil. On pense, c'est comme tout le reste, c'est gérable. Eh bien, non, la Tina, c'est pas gérable. Personne ne peut gérer les injections de Tina. Au bout d'un moment, ce sera le produit qui vous contrôlera tôt ou tard, c'est inévitable. Les injections de Tina, c'est à terme une chute dont il est difficile de se relever seul. Moi, je sais que, me concernant, tout est encore très fragile. La tentation guette souvent, mais plus le temps passe, plus cela me semble possible. Je redécouvre beaucoup de choses que j'avais perdues, et parfois c'est même à vivre à nouveau que je réapprends. Voilà. Donc, voilà, Raphaël aborde la question de l'arrêt. Lui, en fait, ça fait 4 mois qu'il a arrêté. Est-ce que c'était une question qui était sur le chat, la chat. Est-ce que vous avez arrêté de consommer ou est-ce que...
Oui, juste un point technique. Il reste 4 minutes d'émission.
Ok.
Oui, moi j'ai arrêté, mais c'est pas hyper longtemps. Ça fait 25 jours aujourd'hui. Et c'est une victoire totale, quoi. C'est incroyable, parce que moi, je consommais tous les jours. Je consommais aussi. Et ça, j'entends, j'ai Raphaël, donc, ça, tout le monde dit toujours, non, moi, je fais pas ça tout seul. J'entends ça tout le temps. Mais moi, je sais bien que c'est normal de le faire tout seul, en fait. Il y a quelque chose de normal. Dans le sens où, bah oui, moi, je faisais ça tout seul. Je faisais des slams tout seul. Et je faisais ça, bah oui. Et, waouh. C'était horrible, quoi. C'était chiant, parce que ça prenait tout sur le boulot, voilà. Même si j'avais le lendemain, j'avais du travail, j'y pensais même pas, quoi. Je dormais pas, puis je me disais c'est bon, parce que de toute façon je tenais éveillé. Mais là, voilà. Donc j'ai arrêté, et le truc qui m'a aidé, moi, c'est simplement de dire que j'arrête. Aujourd'hui, j'arrête. Aujourd'hui, je prends l'engagement de rien prendre. C'est
donc
simplement
t'as,
ça.
T'as fait ça tout seul?
J'ai pas fait ça tout seul, par contre. Ben, je suis allé chez Execo, et donc je me suis fait suivre par Mauricio, qui est génial. J'ai été que 2 fois hein, chez lui. Mais avec lui, on a mis en place des choses qui étaient top, quoi, qui étaient vraiment top. Dont faire un rituel pour que je jette mes produits. je fais ça devant témoin et après je fais moi mes engagements tous les jours quoi. Et ça marche super bien. Et
du coup t'as pas pris de produits de remplacement?
Non, ah non, pour la crystal meth,
il n'y en a pas de produits de remplacement, tu dois te débrouiller tout seul.
Ouais. Okay. Ouais, parce qu'il n'y a pas de dépendance chimique en réalité, il y a une dépendance c'est psychologique quoi.
Oui. Ah ok, c'est pas chimique, c'est psychologique.
Ouais, ouais.
Ok.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin, je pense que en ce qui me concerne, j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter et c'est une véritable souffrance physique d'essayer d'arrêter. Je suis fasciné par le mental très fort de Xavier, bravo. Mais en ce qui me concerne, ça fait depuis 2 ans que j'ai plus aucun plaisir à consommer, mais que je n'arrive pas à arrêter. Et j'ai pris conscience il y a 6 mois que la seule façon pour moi d'arrêter, ce serait dans un lieu médicalisé, c'est-à-dire faire une cure de sevrage et ensuite une post-cure. Et donc je vais entrer la semaine prochaine en sevrage pour 2 fois 3 semaines. Et ensuite, je pense que je vais passer 3 ou 4 mois dans des centres médicaux. Je sais que l'émission va se terminer vite. Donc, pour être très concis, après avoir essayé plusieurs fois, comme toi, de me dire que j'allais arrêter, que vraiment, pour mon bien, il fallait absolument que j'arrête. Au bout de 8 jours, je rechute. Donc, j'ai pas d'autre choix que de passer par la case désintoxication médicalisée. Et j'espère que ça marchera, et que dans 6 mois, ou 4 ou 6 mois, je pourrais dire j'ai arrêté cette drogue. Le seul message que je voudrais dire, c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est de ne pas essayer, c'est de ne pas prendre le cristal. C'est du même. Je me rends compte maintenant que je vais entrer dans une semaine en cure de sauvage, que c'est comparable à l'héroïne. Alors dans le milieu gay, il faut pas le dire, mais je le dis. Pour moi, la méthamphétamine, c'est comme de l'héroïne. C'est aussi déstructurant, destructeur et épouvantable que l'héroïne. Voilà.
Est-ce que c'est le mot de la fin?
Oui, ça peut être le mot de la fin.
Ben, merci pour votre témoignage.
Oui, merci d'être venu.
Merci.
Merci.
Merci de visibiliser cette thématique. Et à la semaine prochaine, du coup.
Oui.
Ouais, à la semaine prochaine.